Alors, je précise que le pourquoi on fait ces rencontres, c'est parce que la Pierre d'Angle, c'est une association qui regroupe un certain nombre de groupes en France, dans différentes villes de France, avec un double objectif. Suivre la personne de Jésus tel que nous apprenons à le connaître dans les évangiles lus dans l'Église. Et deuxième objectif, suivre la spiritualité créée par le père Joseph Wresinski. Alors la personne de Jésus, ben mon Dieu, on apprend à la connaître dans les évangiles. On apprend à les connaître dans le partage qu'on peut faire, dans la prière, et dans les partages, dans le groupe à Paris, de la Pierre d'Angle, et puis dans d'autres endroits aussi. Et la spiritualité du Père Joseph, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas trois pages qui expliquent ce qu'est cette spiritualité. Spiritualité, ça veut dire quoi ? Un petit mot sur le sens du mot spiritualité, quand on dit la spiritualité du Père Joseph. Spiritualité, ça veut dire un ancrage, une manière de voir la personne de Jésus d'une manière particulière. Voyez par exemple, en ce moment, vous êtes autour de la table, et bien Claudine, elle ne me voit pas de la même manière que Bernard. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas placée au même endroit. Elle n'est pas placée au même endroit. Et donc, elle, Claudine, elle voit ce côté-là de mon visage, et Bernard, il voit l'autre côté. Et donc, Claudine, elle peut dire, ah ben Jean-Claude, il est de telle manière. Et Bernard, il peut dire, ah mais non, c'est pas vrai. Oui. Il peut dire, ah ben il a une tache sur la joue droite. Et Bernard dira, ah mais non. Qui est-ce qui a raison ? Ben, ni Claudine, ni Bernard. Enfin, Claudine, elle a raison de le dire, mais Bernard, il n'a pas tort, puisqu'il ne la voit pas. C'est différents points de vue. Lorsque, si par exemple, après cette rencontre, juste à la fin, on dit « ça y est, c'est terminé, maintenant on rentre chez nous. » Ah, attendez, une minute. On va chacun prendre un morceau de papier et puis on va écrire trois lignes sur « qu'est-ce qui s'est passé ce soir ?» Eh bien, autant de personnes dans la salle, autant de descriptions différentes. Il y en a qui vont dire « on était tant ». Il y en a qui vont dire, ah ben, c'est un tel qui a parlé. Il y en a d'autres qui vont dire, on a parlé du Père Joseph. D'autres vont dire, on a parlé du Père Joseph qui rentre à Noisy-le-Grand, parce que c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Qui a raison ? Ben, tout le monde. Simplement, c'est un point de vue différent, c'est ce qui nous a frappés. Et c'est vrai, ça, dans le Nouveau Testament, c'est pour ça qu'il y a quatre évangiles. Ces quatre histoires vu par quatre personnes différentes. L'évangile de Matthieu nous décrit le Jésus que veut transmettre Matthieu. L'évangile de Marc, le Jésus que veut transmettre Marc. L'évangile de Luc, l'évangile de Jean, pareil. Il y a quatre évangiles différents qui sont différents, mais c'est le même Jésus, seulement c'est pas le même point de vue.
Hein ? Révélation dernière. Livre de la Bible, c'est le Nouveau Testament aussi, non, Jean-Claude ?
Le Nouveau Testament, hein, dans la Bible, je non. Redis...
Dernier, comment dire ? Révélation.
Apocalypse.
L'Apocalypse.
Mais c'est le Nouveau Testament.
L'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament.
Ce n'est pas les évangiles ?
Non, les évangiles, il y a quatre évangiles. Il y a des lettres de Paul, il y a des lettres de Jean, de Pierre, de Jacques, et puis il y a l'Apocalypse. Donc il y a un certain nombre de livres dans le Nouveau Testament. Mais on pourra, une année suivante, faire une introduction à ce qu'est le Nouveau Testament ou à ce qu'est la Bible pour avoir une vision plus précise de la Bible. Pour l'instant, on s'en tient au Père Joseph. Et si je parle de l'Évangile, c'est pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité ? Une spiritualité, c'est une manière de voir la personne de Jésus. Et le Père Joseph, il voit la personne de Jésus comme quelqu'un qui s'approche de ceux qui ne comptent pour personne. On peut très bien voir aussi la personne de Jésus comme quelqu'un qui parle bien de Dieu, comme un sage. Ou on peut le voir, comme le Père Joseph, comme quelqu'un qui s'approche de ceux qui sont rejetés par la société, de ceux qui ne comptent pas, des malades, de ceux qui sont trop pauvres pour avoir la parole, ou de ceux qui, quoique riches, c'est le cas de Zachée, quoique riches, sont exclus de la société parce que c'est eux qui perçoivent l'impôt et qu'on imagine qu'ils sont voleurs et surtout qu'ils sont des collaborateurs de l'occupant romain, car Israël de l'époque est occupé par les armées romaines. Donc, une spiritualité, c'est s'attacher à une certaine manière d'être de Jésus. Et à partir de cette manière d'être, eh bien, il y a une pédagogie, c'est-à-dire une manière de se comporter. À partir du moment où je vois Jésus qui se fait proche des plus pauvres de son temps, des plus malades, des plus exclus, de ceux qui sont le plus rejetés, le plus fatigués, de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui pensent qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien, qu'ils n'ont jamais rien à dire, à partir du moment où je m'attache à ce Jésus-là, c'est-à-dire à partir du moment où je suis, du verbe suivre, hein, où je suis, je me mets à la suite de ce Jésus-là, eh bien, j'essaie de faire dans ma propre vie la même chose qu'a fait Jésus, et donc ma spiritualité, ce sera de mettre au premier rang la personne du plus rejeté, du plus exclu ou du plus malade. Et c'est la spiritualité du Père Joseph. Donc une spiritualité, c'est une manière particulière de suivre Jésus parce qu'on accentue davantage une partie de l'Évangile. On ne peut pas suivre toutes les manières d'être de Jésus. Jésus, il a vécu 33 ans, 3 ans de vie publique, il a fait des tas de choses, il a dit des tas de choses, et encore, tout ne nous a pas été dit de lui. On ne peut pas suivre tout. On prend un accent, et l'accent du Père Joseph, c'est la présence de Jésus aux plus faibles de son temps, à ceux qui sont rejetés ou exclus, qu'ils soient très pauvres ou riches, comme c'est le cas de Zachée. Alors, spiritualité du Père Joseph. Et comme à la pierre d'angle, on a la volonté de suivre cette spiritualité, eh bien, pendant ces séances, j'essaie de vous introduire à cette spiritualité. On a les fois précédentes essayé d'approfondir quelle fut son enfance, quelle fut sa jeunesse, quelles furent ses années de séminaire, puis ses premières années de prêtre, à Ternier d'abord, puis à Duisel. Et nous voici maintenant en 1954, exactement le 31 janvier 1954. Le 31 janvier 1954, c'est l'appel de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, à la radio, fait un appel. L'hiver est extrêmement difficile, il fait très très froid, et il y a des gens qui sont dans la rue, des familles qui sont dans la rue, et l'abbé Pierre dit, ce n'est pas possible, il me faut des couvertures. Et puis il y a un mort, il y a quelqu'un qui meurt. Et donc l'abbé Pierre fait un appel à la radio, il faut des couvertures. Moi je m'en rappelle, j'avais 12 ans à cette époque-là, je me rappelle très bien de cet appel et je me rappelle surtout des matelas et des couvertures qui se trouvaient dans la rue pendant 2 ou 3 jours et des camions loués par l'abbé Pierre ramassaient ça à travers Paris et il y a eu là des milliers de matelas et de couvertures que les gens dans les appartements ont descendu dans la rue suite à l'appel de l'abbé Pierre. On a appelé ça, ce 1er janvier 1905, pas de premier, le 31 janvier 1954, on a appelé ça l'insurrection de la bonté. Insurrection, c'est la même chose que si on dit révolution. L'insurrection, la révolution, le mot qui était employé, c'est l'insurrection de la bonté. Comme si tout d'un coup, la bonté des Parisiens, habituellement, vous savez, quand vous êtes dans une ville, ben, on ne s'occupe pas trop du voisin, chacun pour soi, on est chez soi, et puis c'est tout. Et finalement, que le voisin meure, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre famille, etc. Et là, tout d'un coup, à l'appel de l'abbé Pierre, voilà que les gens se sont dit, mais il y a des gens qui sont malheureux, et donc on va leur donner quelque chose, on va répondre à cet appel de l'abbé Pierre, donner des couvertures, donner des matelas, donner des pullovers, des écharpes, donner des gants, donner de quoi se réchauffer, car il fait trop froid. 31 janvier 1954.
Excusez-moi,
Jean-Pierre. Oui, vas-y.
À ce moment-là aussi, il y avait la crise comme aujourd'hui ou c'était mieux qu'aujourd'hui?
Non, c'était mieux qu'aujourd'hui, mais c'était le lendemain de la Première Guerre mondiale qui s'est terminée en 1945. Ah. Et il a fallu attendre à peu près jusqu'en 1960 pour que la situation redevienne normale. Mais c'était une situation qui allait de mieux en mieux, donc ce n'est pas du tout une situation de crise comme aujourd'hui.
Vous avez vu la guerre, vous?
Non, moi je suis né au milieu de la guerre, en 1942. Donc, mais c'est pas une conférence, c'est pas un exposé sur Jean-Claude Caillaux, c'est bien un exposé sur Joseph Brzezinski. Et lui, le père Joseph, il est né au milieu de la guerre, mais de la guerre de 14, et moi, j'étais pas encore né à ce moment-là. Il est né, comme vous savez, en 1917, en février 1917. Donc, le père Joseph, il est prêtre, il est à Duisel, dans un petit village de campagne, et en 54... voilà qu'il y a cet appel de l'abbé Pierre. Évidemment, Joseph, il entend parler de cet appel. Nous ne savons pas ce qu'il en pense. Lui, il continue son travail de prêtre à Duisel. Mais il cherche dans sa paroisse des gens plus pauvres que ceux qu'il rencontre. Il va dans les fermes, il cherche à avoir des relations avec les travailleurs agricoles qui ont pas beaucoup de formation, de compétences, de qualifications, qui sont pauvres, et il essaie de chercher encore plus pauvres même que ceux qu'il rencontre. Et alors, c'est son évêque le sait, ça. Et son évêque est d'accord, d'ailleurs, avec Joseph. Mais les paroissiens, ils sont pas très d'accord avec leur curé, qui est le père Joseph. Ils ne sont pas très d'accord avec leur curé. Il est bien sympathique, Joseph. Il fait des belles choses, il fait des choses un peu originales, il fait des crèches originales, il a une manière de célébrer la messe d'une manière originale. Par exemple, à l'époque, le prêtre se met dos aux fidèles, mais lui, il a tourné l'autel et il dit la messe face au peuple, bien avant le concile. Voilà. Ou bien alors, comme on fait aujourd'hui, mais ce n'était pas la manière de l'époque. Ou bien alors, il lit la prière eucharistique, mais au milieu de la prière eucharistique, donc la prière qu'on fait au moment de la consécration, quand le prêtre consacre le pain et le vin au corps et au sang de Jésus, eh bien voilà qu'il dit autre chose. Il prie le Seigneur sur ce qui se passe dans la paroisse, sur les gens qu'il a rencontrés. Bref, c'est... ça ne pose pas de problème, mais ça étonne les gens. Et quand ça étonne les gens, quand c'est des choses qui ne sont pas ordinaires, ben les gens, ils se plaignent. Et ils se plaignent à qui? Quand il s'agit d'un prêtre, ils se plaignent à l'évêque. Alors un jour, aux alentours de peut-être mars, avril, mai 1956, l'évêque y convoque Joseph. Et il lui dit... Bah, écoute, Joseph, j'ai rien à te reprocher. Je sais que tu es un bon prêtre. Je sais que tu aimes bien ta paroisse, que tu t'occupes bien de ta paroisse. Mais il y a des gens qui se plaignent. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Écoute, il y a un endroit à Noisy-le-Grand et ils ont besoin d'un aumônier. Peut-être que là, tu trouveras un endroit qui est avec des gens, les gens que tu recherches. Vas-y voir, vas-y. Et puis, mon Dieu, tu verras bien, si dans 6 mois tu te rends compte que ça ne va pas, reviens dans le diocèse et là, bah, je te trouverai une paroisse. Mais va voir, peut-être que c'est pour toi. Alors le père Joseph y va, et il y va le 14 juillet 1956. Il y va le 14 juillet 1956. Alors il faut savoir, avant que je précise l'entrée du père Joseph dans ce camp de Noisy-le-Grand, que après l'appel de l'abbé Pierre, en janvier 1954, les compagnons d'Emmaüs, qui sont les hommes qui étaient autour du père Joseph, autour de l'abbé Pierre, que l'abbé Pierre avait réunis autour de lui, qui étaient surtout des hommes qui vivaient dans la rue et qu'il avait réunis en communauté, qui du coup habitaient dans des maisons, ensemble, avec les compagnons, l'abbé Pierre construit ce qu'on appelle des cités d'urgence. Donc des maisons, des petites maisons, dans lesquelles peuvent être logées des familles qui sont sans logement, parce qu'à l'époque il y avait une crise énorme de logement. Beaucoup, beaucoup de familles n'avaient pas de logement à cause de la guerre. Ça faisait 10 ans que la guerre était finie, même pas. Et voilà, il a fallu, la reconstruction de la France a été quelque chose de lent et difficile, parce que la guerre avait fait beaucoup de dégâts et beaucoup de malheurs. Donc, ces compagnons d'Emmaüs, ils créent des cités d'urgence. La première cité d'urgence, elle est à Plessis-Trévise. Voilà, c'est Plessis-Trévise, c'est la première cité d'urgence de l'abbé Pierre. Et puis ensuite, Noisy-le-Grand, qui est une cité d'urgence, mais une cité d'urgence un peu particulière. Ce ne sont pas des maisons en dur, ce sont des tentes. Des grandes tentes, dans lesquelles peuvent être 10, 12, 15 personnes. Donc on y loge dans chaque tente une ou deux familles. Et c'est une cité d'urgence, comme le nom l'indique, un lieu où on peut habiter pour quelques semaines ou quelques mois, c'est l'urgence. Donc, au bout de 3 mois, 6 mois, on sera relogé ailleurs. Mais, vous savez bien, dès qu'on fait quelque chose dans l'urgence, surtout pour les gens très pauvres, eh bien, ça dure. On le fait pour 6 mois, mais ça dure 10 ans, ça dure 20 ans, ça dure 30 ans. C'est encore aujourd'hui ça, dans tous les camps du monde, les camps de réfugiés. Ce sont des camps qui sont créés pour quelques mois, juste parce qu'il y a 10 000 réfugiés qui arrivent, donc on crée un camp, des toiles de tente. On voit ça dans tous les pays du monde, malheureusement. On se dit c'est pour 6 mois, ensuite ils pourront rentrer chez eux où ils seront logés dans la ville d'à côté. Et puis en fait, 10 ans après, le camp continue, il s'est organisé. On a créé une école, on a créé un petit hôpital, on a créé une église ou une mosquée, et c'est devenu une petite ville, mais toujours sous la tente ou avec des abris de fortune. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Et c'était la situation à Noisy-le-Grand, des tentes. Et le lieu s'appelait le Château de France, ou bien le Hameau de France. Voilà, c'était un lieu, c'était une ancienne décharge. Et à côté, il y avait des marais. C'était un lieu qui n'était pas constructible, à moins de faire d'énormes travaux pour assainir le terrain, pour le rendre sain, moins pollué. Et donc là se trouvent environ 250, un peu plus, toiles de tente, abritant donc environ 250 familles, exactement 252. Et puis, au bout de quelques mois, on a enlevé toutes ces toiles de tente et on les a remplacées par des abris en fibrociment qui ont cette forme-là, comme ça, un demi-cercle. qui font environ 8 mètres de long sur 4 mètres de large, donc un peu moins de 35 mètres carrés, entre 32 et 35 mètres carrés, et qu'on a appelé des igloos, du même mot que les igloos pour les Esquimaux. Hein, ils vivent dans des... voilà. Et comme ça, un peu cette forme-là, sauf que c'est en long, c'est exactement les abris que l'on voit sur certains chantiers. Voilà. Or, ces abris, eh bien, ils sont, c'est presque de la tôle ondulée. Ça veut dire que il y fait très froid l'hiver, il n'y a aucune isolation, et c'est impossible d'y être l'été tellement il fait chaud. Autant dire que c'est très difficile pour des familles de vivre là. Et quand le Père Joseph arrive, il y a 252 abris en fibre au ciment, 252 igloos qui sont là, avec plus de 250 familles. Le Père Joseph et les premières personnes qui les rejoignent et les gens qui connaissent le camp disent que l'hiver, il y avait certainement 300 familles, parce qu'évidemment, il y a des familles qui accueillaient des cousins ou un homme seul ou une femme avec ses trois gamins, et que donc dans ces igloos, il pouvait y avoir deux familles, et que ça faisait donc du monde. Dans ce camp, plus de 250 familles, il y a seulement quelques points d'eau, un ou deux points d'eau. Les avis sont pas, on n'est pas d'accord sur le nombre, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez 250 familles, il y a un point d'eau. Un point d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fontaine. Une fontaine. Une fontaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir l'eau, eh ben, il faut faire la queue avec un seau, avec deux seaux. Il faut remplir l'eau, il faut ramener les deux seaux jusque dans l'igloo. Évidemment, il n'y a pas l'eau courante. Pas l'eau courante, pas l'électricité. Nous sommes en 1956, 14 juillet, le Père Joseph entre dans ce camp. Personne ne vient pour ramasser les ordures. Donc vous imaginez un endroit où on ne ramasse pas les ordures. D'abord, ça ne sent pas très bon. Ça fait un peu des décharges. Encore ça, c'est supportable. Moi, il y a des rats. Il y a des rats.
Il y a des rats.
Il y a des rats. Et donc, évidemment, vous voyez, des rats qui pullulent, et donc les enfants ont peur. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur. Les adultes aussi, bien sûr. Enfin bref, les rats, vous voyez, c'est pas agréable, bien sûr.
Ah, mais oui.
Et donc, ça veut dire que ce camp, c'est vraiment... En tout cas, dans la France de la fin des années 50, en 56, 57, 58, c'est un lieu où des familles souffrent par un logement qui n'est pas un logement et des conditions de vie qui ne sont pas des conditions de vie dignes par rapport à leurs voisins dans la ville de Noisy-le-Grand ou à Paris qui est proche. Noisy-le-Grand est à 30 km à l'est de Paris. Donc, autre chose aussi, pour quand même continuer à décrire, il n'y a pas de distribution de courrier. Donc, on distribue le courrier dans une petite épicerie qu'il y a à l'entrée du camp, et il n'y a pas d'adresse. Autrement dit, où sont ces gens? Ben non, c'est la cité d'urgence à Noisy-le-Grand, mais où à Noisy-le-Grand? Et c'est le Père Joseph qui obtient qu'il y ait une adresse, et ce sera le 77 rue Jules Ferry. Le Père Joseph a exigé, vous savez, le Père Joseph n'était pas commode, quand il avait une idée derrière la tête, il ne l'avait pas dans les pieds, hein, cette idée, et donc il fallait qu'il y ait une adresse. S'il y a des gens qui habitent quelque part, ils ont le droit à une adresse. Moi, j'habite dans un appartement qui est dans la rue Dampierre, et c'est le numéro 5. J'ai une adresse. Voilà. Eh bien, les gens du camp de Noisy, il fallait qu'ils aient une adresse, et le Père Joseph a exigé qu'il y ait une adresse, et ça a été le 77 rue Jules Ferry. Donc, nous voilà le 14 juillet 1956. Le père Joseph, quelques jours avant, dans son presbytère à Duisel, lorsqu'il s'est dit, eh ben voilà, je pars demain matin à Noisy-le-Grand, il ne s'est pas dit, je vais prendre l'autocar ou je vais prendre le train pour aller jusqu'à Paris, et de Paris, je prendrai le train pour aller jusqu'à Noisy-le-Grand. Il s'est dit, je vais aller à pied. Je vais aller à pied parce que ça va être une bonne manière de me préparer à l'entrée dans ce lieu. Il ne connaissait pas du tout le camp de Noisy. Il n'y avait jamais été. Il se dit, pour aller là, où sûrement ça doit être difficile, il faut me préparer, comme une sorte de retraite. Et donc il est allé à pied. Mais il n'est pas allé à pied comme on fait un pèlerinage. Comme vous savez, on fait la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va à pied, on a un sac à dos. Non, il est allé à pied comme font les gens qui vivent dans la rue, qui font la route. Et du coup, il a rencontré des hommes qui, comme lui, faisaient la route. Et la petite histoire dit d'ailleurs que lorsque le soir, ça a duré 3 jours, son voyage jusqu'à Noisy-le-Grand, lorsque le soir, il était avec ses hommes, les hommes disaient « Ah, dis donc, Joseph, si t'as un ennui, ben va donc à Duisel, là t'auras un curé qui t'accueillera. » Et les hommes en question ne savaient pas qu'ils s'adressaient au curé en question de Duisel. Donc, ça veut dire que la réputation du père Joseph, c'était qu'il y avait un petit curé à Duisel qui n'était pas ordinaire et qui accueillait dans son presbytère les gens qui étaient dans le malheur, qui étaient dans le besoin ou qui erraient sur les routes sans trop savoir où aller, sans domicile, ou bien, voilà, qui avaient des vies complètement démolies. Et puis, ben voilà, parce que ça arrive dans la vie, que la vie soit trop difficile. Et donc, ces hommes, eh bien, ils savaient qu'il y avait un endroit où on pouvait aller. Si on pouvait aller, si on frappait, alors on était sûr que le curé ouvrirait, donnerait une soupe, un morceau de fromage et de saucisson, et puis donnerait un coin dans une pièce pour dormir, jusqu'au lendemain matin, où là, il y aurait un petit déjeuner, et peut-être même l'homme pourra rester quelques jours. Alors, donc, le père Joseph, peut-être vers le 10 juillet, il quitte Duisel. Pendant 3 jours, il marche jusqu'à Noisy-le-Grand et il arrive le 14 juillet 1956. Alors là, je vais vous donner un texte. Hein ?
Est-ce que je peux poser une question ?
Oui, vas-y.
Est-ce que l'abbé Pierre était déjà sur place ?
Alors,
avant que le père Joseph...
En fait, l'abbé Pierre n'a jamais habité à Noisy-le-Grand. Le camp de Noisy-le-Grand a été créé par l'abbé Pierre, construit par les compagnons d'Emmaüs, mais l'abbé Pierre, lui, il est tombé assez gravement malade, et c'est une des raisons pour lesquelles les évêques ont jugé nécessaire de donner au camp de Noisy un aumônier. Et alors les évêques cherchaient un prêtre qui pourrait venir à Noisy, qui ne serait pas trop affolé par ce qu'il verrait. Alors il y a eu plusieurs aumôniers qui sont venus, mais qui restaient quelques semaines. Parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire là-dedans? C'était de la boue, ou au contraire c'était de la poussière quand il faisait chaud. Et puis que faire avec ces gens qui étaient des malheureux? Les prêtres ne savaient pas quoi faire. Et donc c'est là que le père Joseph vient, soit que l'évêque ait répondu à l'appel de l'abbé Pierre en demandant au père Joseph d'aller à Noisy-le-Grand, soit, parce qu'il y a une seconde version, soit que ce soit le père Joseph, je vous en ai déjà parlé une fois, le père Joseph qui a dit à l'évêque, ben, vous savez, je connais un endroit, il n'y est jamais allé, mais on m'a parlé d'un endroit, Noisy-le-Grand, et permettez-moi d'y aller. Donc voilà, il y a deux versions. En tout cas, il y a un moment donné, et certainement à l'appel de l'épiscopat français, des évêques de France, pour répondre à l'appel de l'abbé Pierre, pour répondre à la demande de l'abbé Pierre, pour être aumônier dans ce camp. Ah, donc l'abbé Pierre, lui, n'a jamais été au camp de Noisy.
Parce que moi, j'ai vu le film Hiver 54.
Oui.
On n'a jamais parlé de Joseph Wolanski.
Non. Non, mais le père Joseph, en Hiver 54, n'est pas du tout avec les gens très pauvres de la région parisienne. Il est à Duisel, curé de paroisse à Duisel. Le père Joseph entre dans la région parisienne, au camp de Noisy, le 14 juillet 1956. On va lire l'extrait de « Les pauvres sont l'église » qui sont là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer juste après? On lira l'extrait juste après. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'installe dans le camp, mais il garde toujours un sandwich dans sa poche, une poire pour la soif, comme on dit. C'est-à-dire qu'il continue à aller le dimanche à Duisel pour y célébrer la messe. Et l'idée du père Joseph, c'est de dire, si jamais ça ne marche pas à Noisy, j'aurai toujours ma paroisse. Et en fait, il ne s'installe au camp de Noisy-le-Grand que le 11 novembre 1956, c'est-à-dire 3-4 mois. 3-4 mois après. Donc, le 14 juillet, voilà ce que Joseph, 25 ans après, raconte, la manière dont il entre à Noisy-le-Grand. Donc, je lis, c'est le texte que vous avez devant les yeux. Je fus ébloui, et le « je », c'est Joseph qui parle. Je fus ébloui en arrivant à Noisy-le-Grand. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait la description. Hein. Vous avez des abris en fibre au ciment, il y a de la poussière, il y a des gamins, des femmes, des hommes. C'est le chaos. Et là, il est ébloui. Habituellement, on est ébloui par quelque chose de beau. Ouais. Là, il est ébloui. Il y a comme... Vous allez voir quoi. J'avais pourtant grandi dans la pauvreté et j'avais vu beaucoup de quartiers de misère depuis. À Noisy-le-Grand, ce fut comme une révélation. Donc le père Joseph, vous le savez, on l'a déjà dit les dernières fois, il a vécu dans la pauvreté, l'humiliation dans son enfance, puis ensuite il a rencontré des gens très pauvres au cours de sa vie. Là, à l'époque, il a 39 ans et demi, hein. La petite quarantaine, et il a connu des gens très pauvres, et là c'est une révélation. Tout d'un coup, il voit autre chose. Il voit des gens qu'il n'avait encore jamais rencontrés. Il voit une situation d'existence qu'il n'avait encore jamais rencontrée. Je continue le texte. Mon évêque m'avait proposé de passer quelque temps parmi ces familles très démunies. Puis, de choisir si je voulais rester auprès d'elle. Je suis donc allé pour 6 mois d'abord. Et durant un premier mois et demi, je me suis mêlé aux compagnons d'Emmaüs. Je travaillais avec eux, les compagnons d'Emmaüs. Je vivais comme eux. Et comme ils faisaient des travaux au camp de Noisy, je pouvais m'approcher des familles hébergées là-bas. Alors il y a le camp... C'est plus le père Joseph qui parle, hein. Il y a le camp, et à côté du camp, il y a une sorte d'atelier où il y a les compagnons d'Emmaüs qui font des parpaings. Vous voyez, les parpaings, c'est cette espèce de briques en ciment pour construire les maisons. Il y a une fabrique de parpaings. Donc vous avez le camp d'Emmaüs avec les abris en fribourg-ciment, plus de 250 familles, et puis des compagnons d'Emmaüs qui font le travail, c'est une petite entreprise. Père Joseph, il arrive à Noisy-le-Grand. Vous arrivez à Noisy-le-Grand, vous arrivez dans ce camp. Vous allez frapper à la porte des igloos, mais dire, vous venez quoi faire? Alors Père Joseph, il ne sait pas trop comment faire. Donc la meilleure manière, c'est qu'il va travailler avec les compagnons d'Emmaüs, nous dit-il pendant un mois et demi. Et comme les compagnons d'Emmaüs, ils font des travaux dans le camp, parce que les abris en fibre au ciment, il y avait déjà des abris en fibre au ciment quand le père Joseph arrive, eh bien, on construisait un petit mur pour que ce soit plus isolé, ou on construisait un petit mur pour faire une petite cabane à côté. Et donc les compagnons d'Emmaüs aidaient les habitants du camp. Et ça permit comme ça au père Joseph d'entrer en contact avec telle ou telle famille en disant « Ah ben voilà, oui, ah ben bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mon petit gamin, etc. » Et peu à peu, le visage du père Joseph, sa figure, il était en soutane. À l'époque, les prêtres n'étaient pas en civil, ils avaient une soutane. Et d'autre part, le père Joseph claudiquait un peu, c'est-à-dire qu'il boitait un peu. Il boitait pas vraiment, mais il avait une sorte de déhanchement qui fait qu'il était repérable. Il avait toute sa vie d'ailleurs, il a eu ce léger déhanchement qui ne se voyait pas beaucoup, mais malgré tout. Et si vous avez pu voir des films sur le père Joseph à Noisy-le-Grand, parce qu'il y en a, on pourra une fois en passer un extrait, on voit, il marche au milieu des flaques d'eau avec sa soutane noire, et on voit qu'il marche un peu comme ça, parce que il a pas un problème de jambe, il a pas une jambe plus courte que l'autre, il a un problème de hanche. Et ce problème de hanche n'a pas été soigné quand il avait 4 ans. Hein, il a été à l'hôpital, et puis, vous vous rappelez l'histoire, sa mère a pris le gamin parce que les infirmières avaient oublié de lui donner le paquet de bonbons que sa mère avait amené quelques jours avant. Et Madame Wrzesinski, prise de colère, a pris son gamin. Puisque c'est comme ça, je l'emmène. Mais il n'a pas pu être soigné et il a gardé toute sa vie cette difficulté aux hanches qui faisait qu'il boitait un peu. Donc, Père Joseph, il travaille avec les compagnons d'Emmaüs. Ça lui permet d'approcher les familles très pauvres et peu à peu de les connaître. Troisième paragraphe, la suite, je continue le texte. Je suis arrivé le 14 juillet 1956. Et sur ce plateau, c'est construit sur un plateau, sur ce plateau, dit le Château de France, dont le nom est Château de France, le soleil répandait une chaleur torride. Les ruelles étaient désertes, parce qu'il fait trop chaud. Personne n'était dehors. Devant ce vide, je me suis dit, autrefois, les sources d'eau, les croisements de route, un clocher, une industrie réunissaient les hommes. Comment est-ce qu'on réunit les hommes? On les réunit autour d'une source, autour d'une église, autour d'une mairie, autour d'une salle des fêtes, autour d'un café, autour d'une épicerie, d'un commerce. Et puis là, on construit des maisons. Et puis ça fait un petit village. Et puis ça fait une petite ville. Les hommes se réunissent comme ça. Et puis une industrie, pourquoi? Parce qu'il faut bien travailler. Et ainsi, les familles se réunissent. Donc le père Joseph dit, autrefois, les sources d'eau, les croisements de route, un clocher, une industrie réunissaient les hommes. Ici, à Noisy-le-Grand, dans le camp, les familles sont rassemblées par la misère. Donc, normalement, les familles, elles sont rassemblées par un travail. On sait qu'il y a une usine, là, et ils demandent trois embauches. Ah ben, j'y vais avec ma famille. Et voilà que ça fait trois familles en plus dans le village ou dans la petite ville. On est réunis, on arrive dans une ville à cause du travail. Et là, ils sont réunis par la misère. C'est la misère et le malheur qui les réunit. C'était, je continue le texte, c'était comme une inspiration. C'est quoi cette inspiration? Eh bien, c'est la suite du texte. Je savais ne plus être en face d'une situation banale de pauvreté relative, comme on disait alors, de difficulté personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus seulement monsieur un tel qui a des difficultés, parce que la vie est difficile, ou madame un tel, ou les petits gamins un tel qui ont du mal à apprendre à l'école. Ce n'est pas des difficultés personnelles. Suite du texte, j'avais affaire à une misère collective. Alors là, vous avez une intuition fondamentale du père Joseph Wrzesinski. La misère, c'est pas des problèmes personnels qui sont dus à mon tempérament, à ma fatigue, à ma maladie. C'est une misère collective qui touche des gens qui se ressemblent par le malheur. D'où qu'ils viennent. Et aujourd'hui encore, les gens de la misère, qu'ils habitent l'Amérique du Nord, la Suisse, la France, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Congo, l'Amérique du Sud, l'Asie, se ressemblent et se reconnaissent parce qu'ils ont la même expérience du rejet, du mépris, du malheur. C'est pas les mêmes situations. Il y a des pays où la situation n'est pas du tout la même qu'en France, la pauvreté n'est pas la même, mais l'exclusion, le rejet, le mauvais regard des autres est le même, et les gens se ressemblent. Et c'est ça la notion de peuple que dit Joseph juste après. D'emblée, je cite, « D'emblée, j'ai senti que je me trouvais devant mon peuple. Cela ne s'explique pas, ce fut ainsi. » Donc, vous voyez la scène, Joseph, il arrive le 14 juillet, puis il voit tout ça, et il dit « Je fus ébloui, c'est une révélation. » Évidemment, tout ça, ça ne s'est pas passé en 3 minutes. Ça a dû se passer en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il le raconte en mettant tout ça le 14 juillet. Mais ça s'est passé lentement, il a compris. Il s'est dit « Mais ces gens, la famille qui est là, et celle qui est là, et celle qui est là, et celle qui est là, mais elles n'ont pas le même nom, elles n'ont pas le même visage, elles n'ont pas la même couleur d'yeux, mais en fait, ils se ressemblent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se ressemblent? C'est la misère. Donc, ce n'est pas des situations personnelles, c'est un peuple, c'est collectif. Et pourquoi c'est important de réaliser qu'il s'agit d'une misère collective? C'est que si c'est une misère collective, alors il faut des réponses collectives. Si on pense que ce sont des cas personnels, des situations personnelles, eh bien on va aider monsieur un tel en lui donnant telle chose, madame un tel en lui donnant telle chose, et puis monsieur un tel en lui donnant telle autre chose. Mais il n'y a aucun rapport entre tout ça. On va aider les gens. Ben, il vous manque un peu de pain, je vais vous donner une baguette. Il vous manque un peu de lait pour votre bébé, je vais vous donner du lait. Alors qu'une misère collective, c'est plus répondre à monsieur ou madame un tel, c'est répondre à l'ensemble du peuple des malheureux. L'ensemble du peuple. Et du coup, ça demande une réponse politique. Une réponse politique. Politique pas au sens des partis politiques, mais au sens de organiser la vie en société, le vivre ensemble. Donc une réponse politique. Et c'est pour ça que c'est absolument capital. Et que, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je reprends rapidement ce qu'on a vu pour pas qu'on fasse de contresens. Joseph, quand il arrive à Noisy-le-Grand, il ne faut pas oublier qu'il est habité par cette expérience de Dieu qu'il a faite, qui est que la personne de Jésus, c'est celui qui s'approche des plus pauvres, des plus malheureux, de ceux qui sont rejetés. Et c'est ça qui est le fondement de la manière de voir du Père Joseph. Et donc, quand il arrive à Noisy-le-Grand, il découvre tout d'un coup, non plus des situations individuelles qu'il connaissait à Duisel, qu'il a rencontrées à Ternier, où il était prêtre avant Duisel. Et les gens qui faisaient la route avec lui pour aller jusqu'à Noisy-le-Grand, ils voyaient bien le malheur de ces hommes. Il avait rencontré, mais c'était des situations personnelles. En tout cas, c'est ce que pensait le Père Joseph à l'époque, comme tout le monde. Et quand il arrive à Noisy, il dit « Je fus ébloui ». Ce fut comme une inspiration, ce fut comme une révélation. La révélation de quoi? La révélation d'un peuple. Le peuple de la misère. Et plus tard, pas à ce moment-là, mais plus tard, des années plus tard, ce peuple de la misère sera plus seulement le peuple à Noisy-le-Grand, sera plus seulement le peuple des malheureux en France, sera plus seulement le peuple des malheureux en Europe, mais le peuple des malheureux en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Asie, le peuple de la misère du monde. Et le peuple de la misère du monde, c'est un seul et même peuple, et c'est à ce peuple-là que le Père Joseph donnera le nom de Quart-Monde. Mais sur le nom de Quart-Monde, on parlera une prochaine fois, mais le Quart-Monde, c'est tous ces hommes et ces femmes et ces enfants qui souffrent du même malheur, même si la situation est différente. Vous voyez bien que dans certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, les gens sont trop pauvres pour avoir une télévision. Et qu'en France, les gens très pauvres peuvent avoir une télévision. Donc la situation n'est pas la même, mais l'expérience à l'intérieur du cœur est la même. C'est-à-dire que c'est le même rejet, c'est le même mépris, c'est le même mauvais regard. Et c'est cette expérience-là que le Père Joseph a voulu appeler « quart monde », non pas comme quelque chose de négatif, mais tous ces gens qui sont mal vus, qui sont mal considérés, dont on dit qu'ils ne valent rien, eh bien, ils ont un nom, c'est le quart monde. Et le quart monde, ce sont comme des lettres de noblesse, c'est presque un drapeau. On peut dire, je suis du quart monde, c'est un honneur. Ce n'est plus être rabaissé, être rejeté, c'est avoir une existence. Et là-dessus, on reviendra parce que c'est très important, mais c'est là la naissance du mot « quart monde » et de cette réalité de quart monde.
Dans la société voilà. actuelle, c'est...
Donc, j'arrête là.
Dans la société actuelle, bonjour les dégâts.
C'est-à-dire que maintenant, tu as raison, Josette, maintenant le mot de « quart monde » est devenu un mot péjoratif. Voilà. Mais péjoratif, ça veut dire un mauvais mot. Un mauvais mot, alors que le mot de quart monde, c'est un mot de noblesse, c'est un mot, une identité positive. C'est, je suis fier de porter, d'appartenir au peuple du quart monde. Parce que le quart monde, c'est les gens qui sont dans la misère, dans le malheur, mais qui ont le courage de continuer de vivre. Voilà. Et c'est ce courage que montre le quart monde. Le courage de continuer de vivre, de se battre, et de se battre pour les enfants, de se battre pour que la vie soit meilleure, et de se battre pour les autres. Voilà. Donc,
et la pierre d'angle, ce n'est pas lui qui l'a